Parking de roues.
Solidarité.
Engagement.
Citoyenneté. Une émission pour échanger et expliquer.
Retrouvez-moi un lundi par mois de 20h à 21h sur 88.1 FM ou en téléchargement sur www.radiozinzinex.org.
Présenté par Fatia.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur les ondes de Radio Zinzine 88.1 pour l'émission Parking de roues. Donc ce soir, comme à l'accoutumée, j'accueille une association que j'ai rencontrée d'ailleurs lors du forum des associations. Cette année, nous étions sur le cours Mirabeau, pour rappel. Donc j'ai fait un peu le tour des associations et je suis tombée sur Daniel, l'association Natcha Tiramine. Déjà, le nom m'a interpellée, je me suis dit tiens. Donc allons voir ce que fait cette association et pourquoi pas l'inviter à venir parler de ses projets, de ses actions à la radio. Donc c'est ce qu'on va faire ce soir. Donc ce soir, voilà, il y a Daniel, Annie et Émilie, donc les, j'imagine peut-être, bénévoles de l'association. Donc on va parler de ça, on va parler un petit peu de, en effet, du projet, des projets de l'association, de vos missions. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de projets, surtout à Madagascar et en Inde. Vous allez nous en dire plus, on est curieux. Et surtout, ben voilà, on va commencer par peut-être par chacun se présenter brièvement. Alors, honneur aux dames, hein. Annie.
Voilà, je suis Annie, je suis la présidente de l'association, qui a été créée en fait en 2002. Et à l'heure actuelle, on compte 140 parrains.
140 parrains, oui, donc c'est une association qui parraine, c'est ça?
Oui, qui parraine des enfants.
Des enfants, oui. D'accord.
Bonsoir, donc je suis Émilie, je fais partie de l'association depuis début 2017.
Ah, c'est récent.
Et je suis moi-même marraine d'une petite filleule à Madagascar.
Mmh. Et Daniel.
Et Daniel, moi je suis dans l'association depuis 2006 maintenant. Mmh. Et je parraine également un enfant en Inde.
D'accord. Donc, alors, Natcha Tiramine, déjà, ça a une signification
quelque... Oui. Ouais. Alors, bon, c'est un nom très difficile de s'en souvenir, en fait, parce qu'il faut simplement éternuer. en fait, Natcha Tiramine, ça vient du tamoul. Ça veut dire étoile de mer en tamoul.
D'accord.
Et c'est un nom qui est porteur d'une histoire, en fait, d'un conte qui a beaucoup d'importance pour nous. Et voilà.
Mais c'est pourquoi, c'est quoi ce conte?
En fait, ce conte retrace l'histoire d'une personne qui se promenait sur une plage de l'océan Indien et qui se désolait de voir une catastrophe écologique qui s'était produite, puisque la mer, en se retirant très loin, c'était avant le tsunami cette histoire, la mer en se retirant très loin avait laissé sur la plage des milliers d'étoiles de mer en train de mourir au soleil. Et cette personne était désolée devant cette catastrophe. Elle s'est rendue compte, en marchant, qu'une petite silhouette longeait le bord de mer et systématiquement, méthodiquement, reprenait une étoile de mer après l'autre et la rejetait dans un grand geste à la mer. Mmh. Donc ça lui a pris du temps pour venir jusqu'à elle. Elle lui a dit, mais enfin, vous êtes fou ou quoi? Regardez la plage, elle est rouge sang de toutes ces étoiles de mer en train de mourir au soleil. Ça ne sert à rien, ça ne change rien ce que vous êtes en train de faire. Mmh. Arrêtez-vous. Et la personne a continué à rejeter une étoile après l'autre en disant « Je pense que pour celle-là, ça change énormément. Mmh. » En fait, c'est cette idée que chacun d'entre nous, on peut se concentrer soit sur l'étendue des choses qui sont à faire, ou sur chaque chose que chacun d'entre nous peut faire une différence.
Mmh. Donc voilà. C'est un peu les valeurs que défend l'association, finalement.
C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire pas se centrer sur les grandes choses qui sont à peu près inatteignables, mais se centrer sur le quotidien qu'on peut faire à toute petite échelle, mais le faire de manière... parfaite, le mieux possible, du moins.
Le mieux possible.
Le mieux possible, et du coup, avoir un impact à son niveau.
Et du coup, l'association, tu disais, Annie, a été créée en 2002. Oui. La genèse du projet, c'est ce conte, j'imagine, mais il y a d'autres choses. Qu'est-ce qui a poussé à créer cette association?
En fait,
tu fais une drôle de tête. Les auditeurs ne voient pas. Mais si, je vous assure.
Non, moi, c'est parce que j'ai fait à 50 ans ce qu'on fait habituellement à 18 ans. Quoi. J'ai eu beaucoup de retard.
Bon, c'est pas l'essentiel est là.
C'est que je suis partie, en fait, sac au dos, seule, dans un pays que je connaissais absolument pas, pour découvrir un monde, une culture, sans savoir où j'allais dormir le soir même. Et puis, je l'ai restée un mois toute seule. Et j'ai commencé face nord, avec l'Inde du Nord, c'était pas facile, quoi.
En Inde.
Oui, et donc c'était compliqué. Et en fait, c'est comme ça que ça a démarré, avec l'idée de donner un coup de main dans un orphelinat. Mais c'est lorsque je suis arrivée sur la plage de Mamalaboram, la veille de mon départ, de ma rentrée en France, que je suis tombée sur ce groupe d'enfants apparemment orphelins. Mais en fait, c'était des enfants qui avaient été, manipulés par un escroc, qui faisait de l'escroquerie à l'orphelinat pour obtenir de l'argent des touristes étrangers, quoi.
D'accord.
Et donc, en fait, ces enfants sont venus vers moi, sur la plage, en me disant « Viens voir notre orphelinat », etc. Et quand je les ai vus dans cette mer, je me suis dit « Mais c'est eux, mes étoiles de mer à moi. Mmh. Et est-ce qu'on pourrait se mettre en groupe de copains pour les rejeter à la mer, tranquillement ?» Donc voilà, c'est parti de là. Il m'a fallu un an pour m'apercevoir que c'était en fait un escroc, pour rectifier la barre, pour trouver d'autres personnes très intéressantes. Mmh. Et on a trouvé des partenaires formidables sur le terrain.
Sur place, ouais.
Voilà. Mmh. Et donc après, l'histoire est née comme ça, quoi. D'accord. Avec une bande de copains, on était une dizaine au départ. Et puis ça s'est appris.
Ça a pris de l'ampleur, voilà, l'ampleur petit à petit.
Mais une petite ampleur quand même, on reste très. Parce que 140 par un, c'est pas énorme, quoi. Hein.
Mais c'est déjà pas mal pour.
Oui.
Voilà.
Dans le temps, dans la durée,
oui. Mmh. Ouais, parce que c'est ça aussi, il faut que les parrains restent fidèles et qu'ils continuent aussi à aider ses enfants.
Oui, c'est un engagement dans la durée. Et c'est vrai qu'on est porté, en fait, par ce projet, parce qu'on a la grande chance d'avoir beaucoup de partenariats avec des associations différentes aussi. Mmh. Et des gens très mobilisés, très engagés, qui ont compris le sens, et qui l'intègrent, et qui le véhiculent eux-mêmes, qui sont porteurs. Mmh. Émilie et Daniel sont deux représentants.
Donc, du coup, on va parler de toi, Émilie, puisque tu es toute récente, toute récente, entre guillemets, hein, 2017, c'est pas si vieux que ça, dans l'association. Qu'est-ce qui t'a motivée à te mobiliser, à t'engager pour Natia Tiramine?
Mon souhait au départ était de continuer à m'impliquer dans des associations en menant des actions concrètes. Mmh. Ce qui m'a attirée chez Natia Tiramine, c'est tout d'abord la bienveillance avec laquelle les membres de l'association aujourd'hui mènent leurs actions. Et puis c'est cette finalité ultime qui est d'aider les enfants en détresse dans le monde, qui est universelle.
Oui, oui, puis ça fait partie aussi des principes de l'aide humanitaire. Hein. On parle d'impartialité, d'indépendance, de neutralité, mais aussi d'humanité. Et l'humanité, c'est ce qui guide souvent les associations dans leur mission quand elles vont à l'international.
Oui, complètement, complètement. C'est cet esprit de solidarité vraiment et d'entraide que chacun porte en soi au sein de l'association qui m'a vraiment motivée à les rejoindre. Je les ai rejoints par une amie qui était elle-même déjà dans l'association, qui m'en avait parlé à nombreuses reprises, et j'ai eu envie d'être actrice de ce changement.
D'accord.
Pour Natia Tiramine.
Donc tu marraines, non, ça se dit pas.
Si. J'accompagne, je marraine, oui.
Tu accompagnes
Oui, une petite fille qui s'appelle Fifaliana, qui a 9 ans maintenant, qui est dans une école à Madagascar, soutenue par l'association, dont j'ai des nouvelles très régulières, puisqu'on a à cœur, au sein de Natia Tiramine, de communiquer auprès des parrains sur l'état de vie de l'enfant, son état de scolarité, puisqu'on les accompagne beaucoup dans leurs études. C'est une des finalités, Annie, tu le rappelleras peut-être plus tard, mais notre volonté est d'accompagner les enfants au plus loin dans les études pour qu'ils soient autonomes par l'emploi.
D'accord.
Voilà. Donc c'est vraiment les mener vers ce chemin d'autonomie financière et d'équilibre de vie.
D'accord.
Oui. Et donc je suis ravie d'avoir des nouvelles de Fifaliana, de voir que elle a des bonnes notes à l'école, qu'elle aussi est fière de faire partie de cette communauté de l'association Natia Tiramine, puisqu'aujourd'hui les filleules qui sont soutenues par l'association s'identifient, s'entraident aussi. Et cherchent à tous aller de l'avant et rendre fiers au-delà de leur famille aussi l'association en retour de l'aide qu'on leur apporte. Donc c'est une joie si, en tout cas en tant que marraine, je peux aider une petite fille ou un petit garçon à s'épanouir et à aller dans une vie d'adulte de façon saine, ce sera
gagné.
Une petite victoire.
Une petite victoire. On va en venir à toi, Daniel, du coup.
Oui.
Toi, tu as donc, tu disais, depuis 2006 à l'association.
Absolument.
Quand même.
Ça date en fait tsunami qui a eu lieu en Inde. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait énormément touché. Et puis, comme la vie est faite de surprises et d'opportunités qui se présentent, il se trouvait que cette année-là, j'ai rencontré Annie. Et on lui a raconté qu'on allait en Inde, et du coup, Annie m'a raconté tout ce qu'elle faisait là-bas. Du coup, je suis allé rencontrer l'école dans laquelle les enfants étaient accueillis, hein, et de fil en aiguille, j'ai trouvé que le projet que Annie proposait correspondait bien à mon système de valeurs, parce qu'il y avait ce souci... d'accompagner les enfants que l'on connaît nommément. Je veux dire, c'est pas une foule anonyme, ces enfants. C'est des enfants que l'on rencontre régulièrement, que l'on voit grandir. Mmh. On parlait de les aider dans la continuité. C'est vrai que c'est un élément extrêmement important de les accompagner le plus loin possible, en tout cas vers l'autonomie, puisque c'est l'ambition de l'association. Donc voilà ce qui m'a fait à la fois venir dans Natcha Thiramin et qui me fait rester dans Natcha Thiramin. Absolument. Voilà.
Mais en même temps, quand on regarde le monde associatif, les ONG qui interviennent dans le monde entier, est-ce qu'on ne se marche pas sur les pieds à Madagascar ou en Inde entre associations ?
Je crois que le plus important, c'est de partager la même vision, le même rêve de cette planète. Après, chacun d'entre nous, on va agir avec les combats qu'on a choisis et on va le faire avec le plus de cœur possible. Je pense qu'à partir du moment où on est convaincu et qu'on est animé par quelque chose qui fait du sens pour soi, on ne peut que travailler en partenariat et main dans la main avec les autres.
Avec les autres.
Et donc, je ne vois pas en quoi on peut se marcher dessus. Si on n'est pas sur la représentation personnelle de l'ego, d'avoir à se montrer ou je ne sais pas quoi, enfin...
Parce que justement, on parlait en début, avant que l'émission ne commence, de cette baisse aussi des financements, que finalement, il y a aussi quelque part une guerre, entre guillemets, entre les associations pour recueillir des financements. D'ailleurs, comment, du coup, votre association est financée et aidée pour mener ces actions ?
Alors, je ne sais pas si on peut parler... C'est une manière de voir les choses.
Non, mais
je comprends. Non, mais je comprends. Mais je pense que... Si on connaît les principes de la principal negotiation, c'est la négociation raisonnée, rationnelle, on sait qu'on peut tous faire ensemble de travailler en synergie, développer des manières de faire, chacun d'entre nous, qui sont complémentaires et qui rapportent de la richesse à tout le monde. Et je pense qu'à partir de ce moment-là où on sait, on est dans cet esprit-là, curieusement, moi, je suis entre guillemets une adepte, ça me fait bizarre de dire ça, de la sérendipité, je ne sais pas si vous connaissez sérendipité, c'est on trouve ce qu'on ne cherchait pas. C'est-à-dire que d'un seul coup, c'est comme si la providence ou la vie ou les choses, le destin, nous met sous le nez des partenariats possibles ou des actions en synergie envisageables qui vont permettre à tout le monde de bénéficier d'une entraide. Si on est sur cet esprit-là, si on est sur le comment faire pour que j'ai plus et que donc que je te prenne quelque chose, ça n'a pas de sens. Si on est de comment faire pour aider mieux tous les enfants qu'on veut accompagner. Et donc, les tiens comme les miens, qu'est-ce qu'on peut imaginer ensemble ? On ne peut que s'enrichir et trouver des solutions innovantes. Il n'y a que ça de vrai. Il n'y a que ça qui fait sens, en fait. Et donc, l'histoire de financement ou de partenariat, je crois qu'on peut créer de la valeur ajoutée en étant d'abord paisible à l'intérieur de soi pour interagir avec les autres. Et donc, du coup, avoir accès à tout son cortical et pas le côté...
Oui, être
sur ses gardes, se méfier. Du coup, on a l'esprit rétréci. Au contraire, on ouvre son esprit pour inventer des solutions créatives et imaginer quelque chose qui était inimaginable avant de rencontrer l'autre, pour inventer des solutions pour des enfants, pour celui-ci, pour celui-là, pour toi, qu'est-ce qu'on peut faire. C'est dans cet esprit-là, en tous les cas, que nous, on aime bien travailler. Et c'est pour ça qu'on développe des partenariats avec de nombreuses associations
locales.
Et on crée... Enfin, on crée des solutions à des problématiques qu'on rencontre en partenariat parce que l'occasion se présente. Et du coup, on invente sur mesure.
Oui, on vient pas plaquer quelque chose qu'on a, on aurait en tête pour justement se dire on fait quelque chose.
Et en fait, alors, y a effectivement, l'aspect financier est intéressant et important, mais il n'y a pas que celui-là. Il y a tout ce qui est valeur ajoutée, créativité, peut-être qu'on aura l'occasion de parler de certaines choses par rapport à ça. Quand on accompagne un enfant, dans le temps, et ça c'est vrai pour n'importe quel parent ou quelle personne nourricière, on sait qu'il y a des difficultés qui vont survenir à des moments et que ça va nous obliger à sortir de notre manière de penser habituelle, à inventer des liens avec d'autres, à tisser des liens pour créer des solutions. Donc c'est ça qui va se produire avec les enfants. Et là, on peut trouver des solutions avec d'autres personnes et pas forcément sur un plan financier non plus. D'accord. C'est en bénévolat.
Mais quand même, l'association bénéficie de subventions, non ? Ou c'est des dons, ou c'est les parrains et les marraines qui...
Je vais laisser le trésorier.
Oui, on va... Attends, Daniel, on va faire une petite pause avant d'en venir à... Merci, Fabrice. on reprend l'antenne. Ça, c'était une sélection. Donc, la sélection de ce soir, c'est Daniel. Hein.
Absolument.
Sélection musicale.
J'ai trouvé que les musiques indiennes sont toujours très dynamisantes.
C'est vrai.
C'est extraordinaire. Ils ont une pêche, ces Indiens. Juste une petite anecdote avant de continuer sur les aspects financement. C'est que quand on va là-bas, ils nous font toujours une fête absolument ahurissante qui nous éblouit, qui nous étonne de voir à quel point ils se mobilisent pour nous remercier à travers les fêtes. Et c'est toujours et très bruyant et très dynamique. Mais c'est fabuleux. On ressort de là avec une pêche
avec
extraordinaire.
Une pêche. Ah ouais, bah oui. Ouais, ouais. Donc on parlait avant la coupure des subventions. Ouais, donc
Voilà. Donc effectivement, la façon dont on se finance, bah c'est un peu comme toutes les associations. Hein. Il y a des parrainages. En l'occurrence, pour Natchat Yeramine, à l'heure actuelle, c'est 26 € par mois pour les parrains qui peuvent parrainer soit un enfant, soit le projet de l'école. Mmh. Hein, voilà. Et à côté de ça, on essaye effectivement de collecter des fonds parce que 26 € par mois, aujourd'hui, ça ne suffit plus parce que la vie augmente en Inde et puis que les projets qui se présentent, on souhaite pouvoir les satisfaire,
mener bien,
les mener à bien, etc. Donc on mène un certain nombre d'actions qui nous aident à récupérer de l'argent. Alors parmi ces actions-là, il y a... une chose dont on va parler un peu plus longuement tout à l'heure, c'est la danse des continents
qu'on fait
le 9 novembre prochain. Ouais.
À la bibliothèque Méjeanne.
Hein. Absolument, la Cité du Livre. Hein. Et c'est un spectacle qui se veut très professionnel, puisqu'on a la chance d'avoir des professionnels de la danse, du chant, etc., qui nous offrent leurs prestations pour nous-mêmes offrir à nos parrains et aux gens qui nous font confiance quelque chose qui les réjouisse.
D'accord. Voilà. Et il y a combien de parrains, du coup, dans l'association ? Parce que vous avez 140... c'est ça,
140 ? 140 parrains.
140 parrains. Donc 140, du coup, bénéficiaires, enfants, ou un peu plus, peut-être.
Un petit peu moins, puisqu'il y en a qui parrainent des enfants et le projet de l'école.
D'accord.
Hein, voilà. En fait, il y a 147 parrainages. Précisément, donc il y a des doublons, parce que je dis que 140 à peu près. Ouais.
Donc les territoires d'intervention, on a compris, il y avait l'Inde, il y a Madagascar, c'est ça ?
Absolument.
Et c'est donc dans des régions spécifiques ou à plusieurs endroits de Madagascar et de...
Alors, pour ce qui est de l'Inde, je crois que Annie a raconté son histoire et qu'on a bien compris que Natchat Yeramine est très attaché à avoir... en Inde, par contre, et en Madagascar exactement de la même façon, des équipes pédagogiques sur place, sur lesquelles on puisse se reposer, et qui sont plus que le vecteur, disons, qui sont les seuls référents en face des enfants. Hein. Nous, on est là pour les accompagner, les aider, on n'interfère pas dans l'éducation des enfants. On se veut extrêmement respectueux des équipes pédagogiques. Et pour le coup, dans la recherche que l'on a faite de ces référents solides, bah, il se trouve qu'à Mamallapuram, donc, qui, pour les gens qui ne connaissent pas bien l'Inde, est situé...
Moi, je ne le connais pas, donc...
Dans Mamallapuram, c'est un village touristique qui est situé entre Pondichéry, là, je pense que tous les Français ont ce type de référence, et puis Madras, qui aujourd'hui est devenu Chennai. Hein.
D'accord.
Voilà. Donc, c'est un village de bord de mer. Et il se trouve que dans ce village, il y a une école qui est tenue par des sœurs salésiennes. Et il se trouve que dans la recherche que l'on a fait de partenaires locaux sérieux, ce sont les sœurs salésiennes qui se sont imposées pour nous rassurer le plus sur la façon dont elles allaient épouser la façon dont on avait envie d'aider. Puisqu'on va signer avec elles des conventions. Ces conventions définissent un peu un certain nombre d'éléments sur lesquels on va s'engager financièrement. Et puis, voilà, c'est comme ça que ça se passe.
D'accord.
Hein. Et puis, sur Madagascar, alors je connais moins bien Madagascar, je peux dire que l'école que l'on soutient le plus, c'est Moranga, qui est donc entre Tananarive et au nord de Tananarive.
Oui, c'est intéressant en fait, de dire que les sœurs salésiennes, ce sont les petites sœurs des pauvres, en fait. Parce qu'on a exploré, après m'être faite, entre guillemets, avoir par cet escroc au démarrage, de l'association. J'ai dû prospecter en mopette, en mobilette, sur plusieurs structures. Et j'ai vu des structures laïques, j'étais très, je dirais, vigilante sur la qualité de ce qui était proposé par ces acteurs sociaux. Et en fait, c'était les petites sœurs des pauvres qui ont remporté le pompon dans la mesure où elles partageaient la même vision qu'on avait, que c'était que accompagner ces enfants jusqu'à leur autonomie, mais pour qu'ils aient une égalité de chance dans la vie, puisque ce sont, en Inde, c'était des intouchables, les enfants orphelins intouchables, de la caste des intouchables. Et puis surtout qu'ils aient l'envie de, ensuite, une fois devenus grands, de partager ce qu'ils avaient reçu un jour avec d'autres. D'accord. C'est-à-dire faire boule de neige derrière. Ouais, et cet esprit-là, cette transmission-là, on voit qu'elle se réalise. Elle se réalise sur le terrain en Inde avec l'aide de ces personnes, ces acteurs sociaux, je dirais, nos partenaires, d'une manière incroyable, parce que nos plus grands filleuls commencent à parrainer des enfants qui sont engagés dans l'humanitaire.
D'accord.
Et ça, c'est top. Et cet esprit-là, on a eu du mal à trouver cette dimension-là. En fait,
avec d'autres structures.
Avec d'autres structures. Ça poussait le bouchon un peu loin, quoi. Voilà.
Et donc vous travaillez avec des associations locales. Donc les projets. Donc tu parlais, Daniel, d'école. Donc c'est uniquement pour veiller à la scolarisation des enfants, c'est ça ?
Absolument. Disons que quand on parle de projet d'école, il y a des gens qui ne souhaitent pas s'engager auprès d'un enfant. C'est affectivement, ils sont peut-être pas prêts à ça, donc ça c'est pas un souci. Mais quand on parle de projet d'école, il y a tout un tas de choses du quotidien. C'est l'achat de matériel pédagogique, ça peut être la fourniture de livres, ça peut être la fourniture de matériel audiovisuel pour faciliter l'apprentissage. Mmh. À côté de ça, ça peut être également du soutien scolaire global, ça peut être des cours de peinture, tout ça pour essayer d'en faire des individus qui soient équilibrés, voilà, tout bêtement.
Pour donner un exemple concret. Ce qu'on constate, c'est que l'Inde est un pays qui est en très fort essor. Ces dernières années, le pays a connu un développement assez phénoménal, ce qui provoque des écarts assez significatifs aussi entre les populations, mais qui ouvre quand même la possibilité de l'emploi pour une plus grande partie de jeunes étudiants. Ce qu'on a constaté, c'est que le monde de l'informatique et le métier informatique était un métier qui était très développé en Inde, même avec des compétences de qualité reconnues dans le monde. Et donc on s'est dit, nous, au travers de l'accompagnement qu'on peut apporter aux enfants, il est important de leur permettre de savoir se servir d'un ordinateur, de savoir utiliser un outil informatique pour demain pouvoir postuler de façon plus pertinente et appropriée à des emplois qui leur seraient proposés. Donc on proposait déjà depuis quelques années des cours d'informatique. Donc il y avait un professeur qui était payé par l'association pour donner ses cours. Et on a aussi cette année choisi de rééquiper à neuf la salle de classe informatique.
Vous avez donc un don,
de l'école de Kutavakkam, donc à Mamlapuram, pour justement permettre l'accès à des moyens plus modernes et plus appliqués au monde du travail réel à ces jeunes enfants.
D'accord. Là, c'est une société qui nous a donné un coup de main, la société LGM, qui a donné des sous, une subvention, spécifiquement pour ce projet-là.
Tout à fait.
Donc, quels autres projets, du coup, développés ? Il y a aussi, j'ai vu aussi qu'il y avait un projet pour pallier au suicide des jeunes.
Oui.
Ouais, c'est une question. Ça m'a interpellée, d'ailleurs, cette question-là, ce projet-là.
Oui, parce que c'est, en fait, en Inde, on parle essentiellement de l'Inde parce que c'est notre partenaire privilégié de départ de l'association. Mais en Inde, en fait, 37% des femmes qui se suicident dans le monde sont indiennes. Mmh. C'est pas du tout en rapport avec le nombre d'habitants en Inde. C'est-à-dire que c'est une très forte proportion. Et nous, parmi l'ensemble des jeunes, parce qu'au fil du temps, depuis 2002-2003, on a accompagné plus d'une centaine d'enfants au fil du temps. Et en fait, on a eu le drame de vivre, il y a 2 ans de ça, le suicide de 2 de nos filleuls, qui étaient grands, un qui était en train de terminer sa licence d'ingénieur informatique, et l'autre qui était en terminale. Elles n'étaient plus dans la structure mère de départ. Ils étaient donc déjà grands. Et ça nous a fait vraiment poser question, parce que le réflexe en Inde, quand on a su ça, nous, on était dévastés. Moi, je le connaissais depuis
qu'il était petit.
Donc, c'est vraiment très difficile. Et le réflexe de l'encadrant, c'était de dire, mais ce sont les jeunes d'aujourd'hui, ils sont comme ça. Il y a une difficulté chez les jeunes, ils suicident pour rien, etc. Mais là, on a le choix. Soit on se dit, bon, c'est comme ça, et on accepte, et on passe, et on continue. Ou bien on se dit, quel est le fruit qu'on peut tirer de ça? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors, immédiatement, et d'ailleurs, le groupe de sœurs a été formidable parce qu'elles ont accepté de faire quelque chose qu'elles pensaient ne pouvoir, qui ne marcherait pas, c'est d'organiser immédiatement un groupe de parole avec nos jeunes filleuls qui étaient sur place à l'école, un groupe de parole animé par les jeunes bénévoles de Natcha Tiramin qui étaient partis en mission avec les missionnaires de l'année, parce que chaque année, il y a une mission qui part avec 6 personnes. Et il y a toujours 3 jeunes.
D'accord.
C'est une manière de transmettre cet esprit de solidarité. Et là, on a briefé les jeunes, on a réfléchi ensemble sur le type de questions qu'ils pouvaient poser, du genre, commençant par dire, est-ce qu'ici, il y a quelqu'un qui a un ami? Alors, ils ont tous levé la main. Combien ont un meilleur ami? Tous levé la main. Et qu'est-ce qu'on fait quand un ami est malheureux? Qu'est-ce qu'on fait? Et là, la parole s'est libérée, ils ont commencé à parler. Donc, ce groupe de parole, c'est comme une sensibilisation à l'écoute de l'autre, être attentif. Donc, c'était déjà une petite graine qu'on a plantée comme ça, avec l'aide des personnes sur place, bien sûr. Mais ce n'est pas suffisant, c'est-à-dire que c'est un début. Mmh. Mais derrière, comment est-ce qu'on peut faire pour mieux prévenir
le suicide?
Et on a eu la grande chance de rencontrer, grâce à Christine Conti, qui fait partie de l'association du conseil d'administration aussi, on a eu la grande chance de rencontrer Elisabeth Baldo, qui est la psychiatre, médecin-chef, psychiatre, qui a créé le Cap 48, qui est
à Montperrin.
À Montperrin, et à l'hôpital d'Aix aussi.
Oui, l'hôpital d'Aix.
Les urgences psychiatriques, quoi. Et elle a dit, banco, je vous accompagne l'été prochain, donc c'est l'été dernier, là, pour animer des formations à la prévention du suicide chez les encadrants.
D'accord.
C'est-à-dire les professeurs, les wardens. Wardens, c'est les dames qui s'occupent des enfants dans le pensionnat, pour sensibiliser et préparer ces encadrants à comprendre le risque suicidaire, comprendre quels sont les signaux précurseurs, savoir comment se positionner, quoi faire. Et ça, c'est... Alors, ça a été formidable. Elle est demandée maintenant à la fac de médecine de Chennai. c'était extraordinaire et très, très fort ce qui s'est passé. Je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, mais c'était vraiment très, très émouvant. Et donc, ça, c'est un impact direct, mais c'est venu parce que la vie nous a apporté cette difficulté-là, qui nous a boosté pour chercher des solutions. Et trouver des... Et la vie s'est chargée de nous apporter quelqu'un qui était à même de répondre à notre demande. C'est un petit peu...
Et on a c'est des rencontres, en
voilà,
fait.
Voilà, des rencontres par un heureux hasard, quoi. C'est ça que ça donne comme sentiment, quoi.
D'accord. On va faire une pause, Fabrice.
Matatu tatu avoku, izere eje itaku. ma son rignaza la cu i zazerena ma va chi fu
fanese nese le ya cu se mi si ya i mi si ana cu tomi le che se mi chiu mi zorete sa fa ma pazia ya ya na fa ni la zona mula tira no nuna tunga tu sa tomi le che se mi chiu mi zorete sa Fama patia ya ya na, fani la zana mbula tila lo, nuna tunga tuza. Tia fapela mina, atiza ika atiza, bulitini tati ana, mana vila vila visa. Tia fapela mina, atiza ika atiza.
On reprend l'antenne. Donc, on parlait de ces projets à Madagascar, en Inde surtout. On va parler de Madagascar aussi, parce que je crois que vous tenez aussi à ce qu'on en parle. Mais justement, comment... Alors, c'est Fabrice hein, qui, pendant cette pause, nous dit « Mais comment sont choisis ces enfants ?» Oui, on va en venir. On va y venir. Donc, Daniel lui répondait. Donc, Daniel, je t'en prie. Du coup, voilà, comment sont choisis les enfants, comment ça voilà, se passe sur le terrain de manière opérationnelle.
C'est ça. En fait, c'est pas nous qui choisissons les enfants. Ce sont les éducateurs qui sont dans les structures ou en parraine, qui nous propose les enfants au parrainage en fonction des critères que l'association s'est fixés, à savoir pour l'Inde, d'avoir des enfants qui ont véritablement besoin d'un soutien. Mmh. Donc en l'occurrence, en Inde, les critères c'était qu'il fallait qu'ils soient de la caste des Dalits, donc les fameux intouchables, et puis qu'ils soient orphelins, puisque c'était ça le but de... la proposition initiale. Parce qu'on estimait que c'était eux, effectivement, qui avaient le plus besoin. Voilà, les plus vulnérables. Donc ça, c'est les éducateurs qui nous les proposent. Et ensuite, on accepte ou pas en fonction de nos ressources aussi. On peut pas...
Et à partir de quel âge
On les prend tout petits. Hein.
D'accord.
Dire, puisque dans l'école où ils sont, il y en a même qui sortent à peine de la maternelle et qui sont en CP. En fait, ça commence en CP.
D'accord. Et, et à Madagascar, du coup
Et à Madagascar, les critères sont un peu les mêmes. Alors,
Ils sont plus larges.
Beaucoup plus larges, parce que la notion d'orphelinat, c'est la pauvreté est tellement étendue et il y a des familles qui sont nombreuses et qui sont extrêmement très pauvres. Donc là aussi, la proposition est faite par les éducateurs, mais sur la base de critères qui ne sont pas strictement les mêmes, parce que la détresse est encore plus forte et plus grande qu'en Inde.
Et c'est souvent des mères qui sont seules, qui se retrouvent isolées, avec plusieurs enfants, de pères différents aussi. Et donc c'est elles qui sont les plus fragiles, en fait.
Du coup, on va parler de Madagascar, hein, parce qu'on a parlé beaucoup de l'Inde, de vos projets en Inde. Et à Madagascar, pendant cette pause, on disait, Annie, tu disais que c'est très difficile.
Oui, c'est très compliqué. À Madagascar, beaucoup plus compliqué qu'en Inde. Parce que, le contexte est très différent. Le niveau de corruption à Madagascar est connu dans le monde entier.
C'est clair.
Et les Malgaches eux-mêmes disent... Des gens qui sont très bien sur place disent qu'eux-mêmes ont cédé à la tentation de la corruption, du plus petit au plus grand. Les choses sont très compliquées. Donc arriver à faire en sorte de trouver le moyen de trouver des modes de fonctionnement qui soient le plus clairs possible, qui soient le plus
transparents.
Et bon, là où on est heureux, c'est qu'on a l'impression... je touche du bois, puis sur le plan de la comptabilité avec nos partenaires locaux, avec un expert comptable, on a réussi à mettre en place des procédures qui commencent à tenir vraiment la route. Et ça, c'est exceptionnel et c'est très rare à Madagascar. Mais ceci dit, il y a encore des problématiques très compliquées. L'engagement des parents peut être très fluctuant, c'est très curieux. Mais
pour leurs enfants, ils sont pas...
Dans la population, du moins, qu'on touche là, il y en a beaucoup qui sont très dans la demande. Ce sont « donnez-nous, puisque vous avez, donnez-nous ». Et même « je vous le donne, mon enfant, c'est plus le mien, c'est le vôtre ». Alors que nous, on cherche à être en arrière-plan, dans les coulisses, à donner un coup de main à des gens qui font très bien sur le terrain.
Pour les rendre autonomes, pour les aider, les accompagner, mais pas pour faire pour
et pas prendre
remplacer.
La place, pas prendre la place des parents. C'est redonner sa place juste aux parents, en donnant un coup de main comme il faut. On a eu des projets, comme Daniel pourrait en parler, d'un poulailler par famille.
Ça, c'était un projet qui a été effectivement... mis en place à la demande des parents que l'on souhaitait au début aider, puisque ces parents étaient dans une espèce de sidération à ne pas pouvoir bouger. Et puis notre préoccupation, c'était toujours celle de pouvoir leur mettre le pied à l'étrier. Et donc, au cours d'échanges avec les parents, ils ont proposé qu'on mette en place des poulaillers. Donc on a commencé à mettre en place des poulaillers, puis on en a fait 3 et 6. Et puis, il s'avère qu'au final, ça n'a pas bien marché du tout. D'abord parce que le modèle économique n'était peut-être pas complètement affûté, mais que sur ces 6, il n'y en a qu'un de poulailler qui a fonctionné. Dans un cas, le père avait revendu les poules. Dans l'autre cas, il les avait tout bêtement mangées. Ou pas fait attention, pas les protéger. Auquel cas, c'était des prédateurs extérieurs comme des chiens ou des trucs qui étaient venus tuer les poules. Voilà, donc c'est très compliqué, c'est très compliqué. Ils avaient demandé quelque chose et puis au final, on s'aperçoit que c'est pas...
Ça répondrait pas forcément à un besoin réel, finalement. Ou s'il y avait un besoin, mais pas de volonté derrière.
Le besoin est lié, parce qu'on a effectivement révisé notre position, parce que nous, on n'avait pas forcément la science infuse, on n'est pas des spécialistes de la volaille. Donc on s'est rapproché d'un spécialiste sur Madagascar, qui nous a expliqué que le modèle économique n'était pas exactement celui qu'on avait imaginé au départ. Donc on a rectifié le tir, et malgré ça, aujourd'hui, je crois qu'il n'y a que 2 familles qui arrivent à en vivre sur toute celles qu'on avait imaginées. Entre autres, il y en a qui s'étaient sentis incapables de continuer le projet, qui avaient redonné les poules aux bonnes sœurs, aux éducateurs. Donc, voilà, c'est très compliqué, quoi. C'est très compliqué.
Madagascar, contexte politique, économique difficile,
très difficile.
Des jeunes, des personnes vont tous les combien vous allez sur place? Est-ce que c'est tous les ans? Comment vous organisez? Est-ce que toi, tu es déjà allée?
Je suis partie en mission l'année dernière en Inde. Alors, l'association se déplace tous les ans sur les lieux où
durant l'été, parce qu'en plus, j'imagine, il y a beaucoup de personnes actives aussi dans l'association, donc et pendant les vacances.
On prend sur nos congés.
Ouais, vous prenez sur vos congés.
On prend sur nos congés. Toute la démarche de mission est faite de manière bénévole. On se déplace, alors des membres du conseil d'administration se déplacent systématiquement lors des missions, donc une fois par an en Inde et une à deux fois par an à Madagascar.
Ouais.
Et l'objectif de la mission, je dirais, est triple. Le premier objectif est de rencontrer les enfants. Mmh. Pour nous, il est important d'être au contact direct de chacun des enfants, de détecter les éventuelles difficultés, de mettre en place des actions particulières si c'est nécessaire, de faire un état des comptes avec les gestionnaires de l'école. Hein, pour nous, il est important que la comptabilité soit assurée correctement et certifiée dans l'ensemble des écoles. Et puis le troisième objectif, il est, comme disait Annie tout à l'heure, notamment en Inde, de transmettre aussi les valeurs de l'association à des jeunes étudiants français.
Mmh.
Donc, nous emmenons trois étudiants, hein, même systématiquement, trois étudiants avec nous en mission, qui se déplacent aussi de manière bénévole pour nous aider à tenir cette mission-là, et puis aussi que même acquièrent, je dirais, les bonnes pratiques et les valeurs de Natchati Ramin pour pouvoir les retransmettre par la suite.
D'accord. Est-ce que durant les séjours que vous avez pu faire, donc toi c'était ton séjour l'année dernière, il y a une rencontre qui t'a marqué, quelque chose qui t'a surpris sur le pays ou chacun d'entre vous hein. Bon, imagine la rencontre avec ta filleule, mais peut-être.
Alors
d'autres choses.
Pas ma filleule puisqu'elle est à Madagascar. Mmh.
Non, mais je parle de l'Inde comme de Madagascar. Voilà, des rencontres qui ont été marquantes.
Alors, ce qui m'a marqué lors de cette mission, c'est que j'avais l'impression d'être dans un état de bien-être un peu étrange permanent. Mmh. L'Inde est un pays qui est haut en couleur, en odeur, en énergie et en émotion. Donc j'avais l'impression de me survoler quelque part pendant ces deux semaines. Ce qui m'a marqué concrètement, c'est toute l'énergie que mettent ces enfants à aller à l'école tous les jours, à réussir leurs études, à se projeter dans un emploi. C'est la bienveillance du corps enseignant qui est là vraiment pour aider, accompagner ces enfants et puis travailler vraiment en collaboration complète avec Natchati Ramin pour aller de l'avant. Il faut savoir qu'on reçoit chaque enfant en entretien individuel. Alors évidemment, on fait un état de sa scolarité, mais on essaye de détecter ces signaux de bien-être en termes de santé, bien-être mental. On les questionne, on les interroge beaucoup, alors, en passant parfois de la traduction du tamoul à l'anglais, parfois de l'anglais au français. Donc, c'est des moments qui sont très riches en émotions. Et puis, vraiment, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir interagir avec les enfants, de les voir grandir et évoluer avec nous, puisqu'on a l'occasion de suivre un peu leur parcours. L'association. Mmh. On les suit pendant toute leur scolarité et le plus loin possible. Jusqu'à
du coup, vous voyez l'impact de votre parrainage.
On le voit directement. Et puis, on peut aussi réajuster en fonction de ce qu'on peut constater. Alors, peut-être la dernière chose que je dirais pour terminer mon témoignage sur la mission en Inde, c'est qu'on part là-bas en pensant avoir un planning très clair et très précis, recevoir les enfants de telle classe le lundi, telle classe le mardi, etc. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Il y a des aléas tous les jours. Il y a d'anciens filleuls qui reviennent nous voir avec d'autres problématiques personnelles. Il faut réagir à ce moment-là. En fait, c'est une mission qui est extrêmement mouvante. Il faut être très agile. Mais quand on finit ces deux semaines et qu'on se rend compte qu'on a trouver les bonnes actions, qu'on a mené les bons chantiers pour accompagner ces enfants et les faire grandir, on repart satisfait.
Reparti.
Ah oui, ça marque.
ça marque
beaucoup.
Alors, je ne sais pas combien de temps il nous reste, parce qu'il y a quand même, il faut parler du projet, hein, de 1. Ah oui, 9 minutes. Voilà. Donc, avant, juste vite, alors. On va parler du 9 novembre, important, la date qui arrive là, avec la danse des 5 continents.
C'est ça, c'est un spectacle, un concert hors norme qu'on organise régulièrement tous les 2 ans. Mais Daniel est organisateur en chef. avec Sylvie Rami, et donc on va lui laisser la parole pour présenter le spectacle. Ouais.
Ben, la danse des continents, c'est d'abord pour Natcha Tiramine une façon de se faire connaître, à travers notre envie de mixer les continents, hein, on n'est pas figé quelque part, hein, et ça veut dire aussi notre ouverture culturelle sur des mondes très différents, une adaptation à des mondes très différents. Et puis aussi, c'est une façon pour nous de financer les actions que l'on veut mener. Ça, c'est quand même un élément qui est majeur. Hein. Sans financement, ben, on peut pas faire. Mmh. Voilà, on peut pas faire, tout simplement. Donc, tous les deux ans, parce que c'est une organisation qui est un petit peu lourde, hein, donc on se donne un peu de répit, et tous les deux ans, on fait cette danse des continents, qui a pour principe donc de faire venir des artistes de qualité, de bon niveau, pour danser. Alors, on a commencé par de la danse africaine, de la danse classique, de la danse indienne, etc. Donc, d'où cette allégorie avec la danse des continents. Et puis, donc, ce sont des artistes qui viennent bénévolement pour Natcha Tiramine. Ça, c'est quand même extrêmement important pour nous, hein, puisque... pour être extrêmement concret, hein, un spectacle comme ça, on fait venir 300, 400 personnes quand on va bien, à 15 euros l'entrée, on ne fait pas des milliers de cents. Donc il faut être extrêmement rigoureux sur les dépenses. Mmh. Voilà, donc on a une chance inouïe vraiment, et je crois qu'il faut les remercier, c'est que la mairie d'Aix-en-Provence nous met gracieusement à disposition la Cité du Livre. Et donc le 9 novembre, c'est à la Cité du Livre. Que
l'amphithéâtre
de la Verrière, voilà, que tout le monde connaît. Donc j'espère qu'il y aura beaucoup, beaucoup de monde. L'année, il y a deux ans, on avait été obligé de refuser du monde parce les gens de la sécurité sont extrêmement stricts sur la jauge à ne pas dépasser.
Oui, mais oui. C'est toujours c'est important aussi. Hein,
complètement, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Donc voilà, et ce spectacle, il est toujours très gai, très festif, et c'est l'occasion pour nous de parler de nous, de montrer comment fonctionne l'association. C'est une occasion aussi d'avoir de nouveaux parrains, de nouvelles personnes qui acceptent
de s'engager,
voilà, qui acceptent de nous suivre, voilà. Et donc on va recevoir, je pense, cette année... le quota que l'on attend de 300 ou 400 personnes.
À la Sogora, lors de la journée à la Sogora, on a eu quand même la surprise que quelqu'un vienne au stand de Natcha Tiramine, non pas intéressé par Natcha Tiramine et les actions qu'on mène, mais par la danse des continents, en disant « Mais quand est-ce que vous avez le prochain spectacle ?» Parce que je suis venue déjà deux fois. Enfin, je suis en train de me dire qu'on est en train
de
pourra changer de
métier.
On a des ressources, hein.
Alors moi, ce que je trouve absolument magique, c'est que à chaque fois, on a des artistes qui acceptent de venir se produire bénévolement pour nous. On les en remercie par avance, mais c'est extrêmement réjouissant de voir qu'il y a des gens qui sont capables de donner de leur temps, de donner de leur talent pour se mettre au service d'autres, d'autres associations.
C'est ce que tu disais tout à l'heure aussi, une synergie, le fait que les associations se mobilisent. En fait, c'est vrai qu'il n'y a pas de cause. On n'est pas seul dans son coin à vouloir sauver le monde, mais on peut créer aussi des synergies, des partenariats.
Absolument.
Pour une cause qui nous est chère, en fait. Hein. Donc, ça, c'est hyper important. Comment on peut accompagner et aider un filleul? Comment on fait?
Alors, il y a de multiples façons d'aider, de nous aider pour leur filleul. En devenant parrain, d'abord. Hein. Et puis, on a mis en place un certain nombre de propositions qui vont du don, tout simplement. Hein, puisque je sais qu'à l'actuel, c'est une grande demande qui est faite par les associations. Hein, puisque c'est des sponsors qui sont sensibles à la cause et qui participent. Et puis, de façon concrète, on organise également des voyages. Parce que depuis que nous circulons sur l'Inde et sur Madagascar, on a créé des liens là-bas, on a des contacts extrêmement de gens très, très, très intéressants et très impliqués également dans notre action. Et donc, on a mis en place ce qu'on appelle le voyage solidaire et sensoriel. Parce qu'à travers ce voyage, ben non seulement en Inde, au niveau des sensations, et des on est largement satisfait, parce qu'il y a, on a dit qu'il y a du bruit, de l'odeur, etc. Donc dans ces voyages, il y a la rencontre avec des gens, il y a la possibilité de faire du yoga, la possibilité de bénéficier, disons, des richesses du pays, d'aller se faire masser, etc. Mmh. Et tous les gens qui ont participé à ces voyages sont revenus... zen.
On en a besoin.
Et très heureux. Et on fait ça à la fois sur Madagascar
et en Inde. D'accord. Voilà. Donc on peut suivre aussi l'association sur le blog, hein, le blog Natia Tiramine, et sur Facebook.
Et sur Facebook, voilà. Vous pouvez suivre toute notre actualité, les actions de l'association, et notamment sur le blog, donc c'est sur le blog.natiatiramine.org. Vous pouvez également devenir parrain ou... reverser un don à l'association.
D'accord. Juste avant de rendre l'antenne... Ah oui, Daniel, tu voulais rajouter
juste
quelque
point,
chose.
Oui. Mm. Si des gens qui nous écoutent veulent participer à cette danse des continents,
ben oui,
ils peuvent aller effectivement sur le site de Natia Tiramine, et à ce moment-là, ils seront accompagnés, il faut qu'ils se laissent faire, ils seront accompagnés dans le site pour cliquer au bon endroit pour pouvoir réserver leur place.
D'accord, ah oui, on réserve, voilà. Le 9 novembre à partir de...
20h30.
De 20h30, donc à l'amphithéâtre de la Verrière, à la Cité du Livre.
Absolument. C'est
ça. Voilà. Donc juste avant de clore l'antenne, j'ai une petite info. Donc je reçois dans un mois l'association Le Zonta à Aix qui organise un colloque. Moi je les reçois je crois le 25 novembre, donc un petit peu en avance avant de les recevoir. Ils organisent un colloque autour du climat, du réchauffement climatique. Donc ce colloque aura lieu le 29 novembre à partir de 9h et jusqu'à 16h30. Donc alors le lieu, elle me l'a pas mis, mais bon, on en reparlera. Alors c'est où? Je sais pas le lieu. Donc de toute façon, on en reparlera le 25 novembre lors de l'émission Parking de Roue du mois de novembre. Donc je vous remercie à tous les trois d'être venus ce soir sur Radio Zinzine et à l'émission Parking de Roue. À très bientôt sur les ondes de la radio. Merci Fabrice pour la technique.
Merci
Fabrice.
Fatel nanjano, oh ve
luma o masina.
Vale.